Voilà, chers amis auditeurs de Radio Maria France, nous sommes avec Christine Ternoir, cette émission Couple, à l'écoute de la parole de Dieu. Christine, bonsoir et bienvenue sur Radio Maria France.
Oui, bonsoir, bonsoir chers auditeurs. Très heureuse de vous retrouver pour cette discussion, cette petite réflexion que nous avons ensemble tous les mois sur le mariage et, l'écriture. Comment est-ce que la parole de Dieu nous parle du mariage? Voilà. Et la dernière fois, le mois dernier, nous avons ensemble lu des textes de la Bible, qui est parole vivante, hein, je le dis, je le redis. Nous avons essayé de comprendre pourquoi est-ce que le mariage était tellement protégé par l'Église. Pourquoi est-ce que, contrairement à ceux qui disent que le mariage n'est qu'une relation humaine, pourquoi est-ce que l'Église protège le sacrement de mariage à tel point que l'Église affirme qu'elle n'a même aucun pouvoir sur le sacrement de mariage. Je vais vous citer une phrase du droit canon hein, sur le mariage, qui est le droit de l'Église, qui dit bien que le mariage est institué par Dieu lui-même et qu'aucune puissance humaine ne peut le dissoudre. Lorsqu'il a été contracté selon les demandes de l'Église, c'est-à-dire sans contrainte, en toute liberté et en acceptant la venue des enfants, aucune puissance humaine, c'est le terme qui est utilisé, ne peut dissoudre le mariage. Donc le mariage est vraiment un sacrement très particulier. Voilà, juste pour vous rappeler un petit peu ce que nous avons dit la dernière fois, ce n'est plus notre sujet, mais je voulais juste vous rappeler un petit peu ce que nous avions fait. Aujourd'hui, je voudrais avec vous aborder une question qui est très délicate. C'est la question du mal de façon générale, mais rassurez-vous, je ne vais pas faire, parce que je n'aurai bien évidemment pas le temps de faire un cours de théologie sur le mal, sur la façon dont nous réfléchissons le mal en théologie, non. Juste, je voulais aujourd'hui parler du mal dans le domaine du mariage, dans le domaine du couple. Voilà, en effet, la dernière fois, nous avons vu ensemble que le mariage était une institution qui était particulièrement aimée de Dieu. Et pourtant, lorsque nous regardons autour de nous, que ce soit dans notre famille ou ailleurs, nous nous rendons compte que le mariage est le lieu de tellement de souffrances. On se demande parfois, et on entend demander pourquoi est-ce que Dieu a déserté tel ou tel mariage, pourquoi est-ce qu'il ne sauve pas telle ou telle union. Devant certaines souffrances, on se demande pourquoi est-ce que le mal est aussi présent et pourquoi est-ce qu'il est aussi dur dans le cas du mariage. Moi, je trouve effectivement que les souffrances qui sont vécues dans le cadre du mariage sont des souffrances qui sont terribles, des témoignages que je peux entendre ou de ce que je peux voir, je suppose comme vous tous. Il y a des cas où l'on est face à des souffrances qui sont terribles et on se demande bien, ce mariage qui est tellement aimé de Dieu, parfois on peut se demander où est Dieu dans tellement de souffrances. Voilà donc, je voulais aborder avec vous cette question du mal, de la souffrance. Alors, c'est une question immense, hein, mais aujourd'hui, je voudrais avec vous avancer, faire un petit bout de chemin pour réfléchir sur la question du mal dans le mariage. Alors, il faut, comme d'habitude, nous allons ouvrir la Bible, et je pense que ceux d'entre vous qui me connaissent et qui m'écoutent ne seront pas étonnés si je leur dis que nous allons, encore une fois, nous reporter au premier chapitre de la Genèse. Vous savez combien je les aime, et j'espère que depuis le temps que je les cite et que je les commente, que je les lis avec vous, j'espère que vous aussi avez appris à les aimer, parce qu'ils sont tellement riches et ils disent tellement de choses sur nous que nous ne pouvons pas nous passer de ces premiers chapitres lorsque nous réfléchissons sur la question du mariage. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser de près à un texte particulier que j'ai beaucoup moins abordé avec vous, qui est le texte du chapitre 3, qui nous raconte la chute de l'homme, hein, qui est le texte qui raconte ce que l'on appelle le péché originelle ou le péché des origines. Nous allons voir comment est-ce que l'Écriture nous parle de ce péché des origines et comment est-ce que nous pouvons le réfléchir. Alors, tout d'abord, vous rappelez que à la fin du chapitre 2, nous avons laissé le couple humain dans la félicité de ce que l'on appelle le paradis terrestre, hein, qui est une façon de parler. La fin de ce chapitre, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte devant l'autre. Voilà, alors il y a, à la fin, ils sont dans cette félicité originelle, et ils sont nus et ils n'avaient pas honte. C'est une affirmation qui est très curieuse. Bien évidemment, ça je pense que je l'ai déjà dit, ne croyez surtout pas que nous sommes face à une invitation au naturisme, cela n'a rien à voir. Il faut bien comprendre que cette question de la nudité est une idée qui est très chère à la pensée biblique, hein, ce que l'on appelle la pensée biblique. Dans la pensée biblique, la nudité, en tout cas ce qui affirme d'être nu, c'est affirmer que l'on est vulnérable, que l'on est sans défense devant l'autre. Et dans la suite de l'Ancien Testament, cela va être aussi un petit peu le synonyme de être dans un état de misère. Lorsque l'on est nu, c'est que l'on n'a plus rien pour se couvrir. On est dans un état de... Je crois que ce qui est le plus important à comprendre, c'est qu'on est dans un état de vulnérabilité. Un état où l'on est totalement, comment dire, sans aucune défense devant l'autre. Eh bien, ce qui est affirmé dans ce texte, c'est que cette nudité, c'est l'affirmation d'une confiance complète et réciproque qui fait que l'homme et la femme, dans le paradis des origines, en tout cas dans leur état de félicité originelle, l'homme et la femme étaient dans un état de confiance complète qui faisait que chacun pouvait se livrer à l'autre en toute transparence. Il n'y avait pas aucun sentiment de méfiance, hein, et lorsque l'on parle de transparence, bien évidemment, ce sont des images, hein, cette idée de nudité est une image pour dire quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus intérieur. Et le pape Saint Jean-Paul II a beaucoup médité sur ces textes, hein. Il a passé des années à travailler, à réfléchir sur ces textes de la Genèse. Et lui nous dit que la phrase de la nudité originelle est l'affirmation d'une totale communion et d'un don réciproque, d'un don total qui se fait sans retenue et sans méfiance entre l'homme et la femme, parce que la relation que l'homme et la femme ont entre eux prend sa source dans la relation même de Dieu. La relation qui unit l'homme et la femme est en intime communion avec la relation qui les unit à Dieu. C'est cela qu'il faut comprendre de ce texte qui paraît un peu enfantin avec cette idée de nudité, c'est que le couple humain est créé ensemble, hein, nous l'avons vu, le couple humain est créé homme et femme, il est créé dans un même élan d'amour par Dieu. Et le couple humain, il nous est dit qu'il est image de Dieu. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il est image de Dieu dans le sens où il est un lieu où se vit une relation d'amour. Et ce couple, il vit de la vie même de Dieu. Cette vie de Dieu qui est amour, qui est don réciproque et total. Là, plusieurs fois, nous avons abordé cette question de cette relation dans le couple, image de Dieu, qui est à l'image du Dieu trinitaire, hein, la relation dans la Trinité qui est une relation d'amour. Voilà. Je ne veux pas aller trop loin peut-être ça deviendrait un petit peu compliqué. Voilà. Ce qui me semblait important de dire, c'est que la vocation du couple telle que Dieu l'a voulu à l'origine est celle-là. C'est que la vocation du couple, Dieu a créé le couple pour être un lieu d'amour et de communion. Et moi, lorsque je lis ces textes qui ont l'air toujours un petit peu enfantins, je suis toujours émerveillée parce que ce texte qui a été écrit il y a maintenant plus de 2000 ans, par nos très anciens et lointains ancêtres dans la foi, eh bien ce texte déjà, il nous dit tout, il nous dit absolument tout, et du plan divin sur le couple, ce que Dieu voulait pour le couple humain, ce que voulait l'amour de Dieu pour le couple humain. Donc ce texte, vous voyez finalement, plutôt que de le voir comme une histoire, il faut le voir comme un texte qui nous éclaire, d'une part sur ce que le couple humain était destiné à vivre, et d'autre part, ce texte nous éclaire sur ce que nous sommes. Alors, après donc cette petite introduction sur « ils étaient nus et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre », nous entrons dans ce que l'on appelle le récit du péché des origines, que vous connaissez, vous en avez tous entendu parler, le serpent, la pomme, etc. Bon, alors, tout à fait, tout d'abord, préciser que cette histoire de pomme n'est qu'une erreur de traduction bien après. Hein. Il s'agit d'un fruit, voilà, ce terme de fruit est symbolique parce que ce qui se joue dans ce texte avec ce dialogue entre le serpent et la femme, ce qui se joue, c'est le plus grand drame qui a été vécu par l'humanité. Parce que le texte ne veut pas nous expliquer ni où ni comment, ne nous donne pas de références historiques, ne nous donne pas d'explications matérielles. Ce texte, en fait, il nous raconte de façon imagée, compréhensible par tous, il nous raconte le drame de la rupture entre Dieu et les hommes, et il nous raconte les conséquences de cette rupture. Alors, si nous relisons le texte, hein, nous avons un serpent. Alors, je passe qui est ce serpent. Bon, la tradition de l'Église le pointe comme étant Satan, comme étant le diable, celui qu'on appelle aussi le diviseur, le tentateur. Je passe sur cette question parce que ce n'est pas celle qui nous intéresse. Il est dans le texte, il est dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Voilà, c'est une créature de Dieu, c'est le plus rusé. Ce qui m'intéresse, c'est de voir avec vous, de relire le dialogue entre le serpent et la femme. Alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. En fait, ce que fait le serpent, c'est qu'il transforme et il déforme ce que l'on appelle les commandements divins. Il déforme la parole de Dieu pour en faire quelque chose d'injuste ou qui fait peur. Parce que lorsqu'il dit « Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin », en fait, il a déformé la parole de Dieu qui, au chapitre 1, avait dit à l'homme « Tu peux manger de tous les arbres, sauf un, parce que si tu en manges, tu mourras. » Donc, vous voyez, entre ce que Dieu dit à l'homme « Tu peux manger de tous les arbres », ce n'est pas une interdiction, c'est une liberté où l'homme a le choix d'obéir ou de ne pas obéir à ce que Dieu lui dit, alors que le serpent présente la parole de Dieu comme étant une interdiction. C'est-à-dire qu'il déforme l'idée que l'on peut avoir de Dieu. Voilà quelle est la première tentation. C'est cette déformation de la parole divine qui va induire une méfiance chez la femme, hein, qui va essayer de se défendre, qui va dire « Non, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas sous peine de mort ». La femme essaye de rétablir un petit peu la vérité des paroles, mais en essayant de se défendre, finalement, elle est en position de défense et le serpent réattaque de plus belle en affirmant que ce n'est pas la mort qui les attend, mais que c'est l'accès à la divinité. Et que c'est ça que Dieu ne veut pas que les hommes atteignent. C'est l'accès à la divinité. Et c'est très important parce que, en effet, l'homme et la femme, nous l'avons vu, je vous l'ai dit, recevaient la vie divine de Dieu lui-même. Et le serpent leur dit « Non, mais ce que vous recevez de Dieu, vous pouvez très bien l'obtenir par vous-même. » Et l'homme et la femme auraient pu dire, ben non, nous avons déjà cette vie divine, non, non, nous n'avons pas besoin de manger de ce fruit, puisque nous avons déjà cette vie divine que nous recevons de Dieu, nous vivons déjà en communion avec Dieu, nous profitons déjà de cette union profonde avec Dieu. Et en fait, c'est là où est véritablement la tentation du serpent, c'est que le serpent dit à l'homme et à la femme, dit, le bonheur que vous avez avec Dieu, vous pouvez l'avoir par vos propres moyens. Trouver le bonheur total sans Dieu, voilà quelle est la grande tentation à laquelle les hommes n'ont pas pu résister. Obtenir le bonheur absolu auquel ils rêvent sans Dieu. Parce que tous les hommes, nous sommes tous les hommes, nous avons une aspiration au bonheur absolu. Nous rêvons de ce bonheur absolu. C'est ce que l'on appelle aussi la transcendance humaine, hein, la transcendance de l'être humain. Comme le dit le Christ, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. L'homme a besoin de ce bonheur, de cette transcendance, de cette relation à Dieu. Mais en fait, la grande faute de l'homme va être de dire « Je n'ai pas besoin de Dieu pour être heureux. Je peux moi-même, tout seul, accéder à ce bonheur. » Et c'est comme cela que l'homme se détourne de Dieu. C'est ce que raconte le texte. Le texte nous présente un fruit, mais à partir du moment, vous voyez, dans le texte, la femme, lorsque le serpent lui dit « Vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal, vous serez comme des dieux », ils sont déjà d'une certaine façon comme des dieux puisqu'ils sont unis à Dieu. Mais le serpent leur dit « Vous n'aurez plus besoin de Dieu pour être comme des dieux ». Et c'est là que la femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Et donc, à partir du moment où le serpent l'a tenté, elle est séduite par ce que le serpent lui propose. Elle prend du fruit et elle en mange. Vous voyez qu'à partir de ces images, hein, du fruit et de l'arbre, ce qui est en jeu, c'est le refus de l'homme de recevoir son bonheur de Dieu. Mais le piège du serpent est terrible, parce que le serpent ne veut pas aider l'homme, le serpent veut perdre l'homme. Donc, le serpent ne dit pas qu'ils n'y arriveront pas, l'homme et la femme, à acquérir le bonheur absolu sans Dieu. Il ne dit pas surtout que ce geste de révolte va couper définitivement, va couper les hommes de Dieu. Parce que c'est à travers Adam et Ève que toute l'humanité est séparée de Dieu. Donc, le serpent est là comme le tentateur, comme celui qui fait miroiter que l'homme peut accéder à son bonheur sans être uni à Dieu. Et nous sommes bien là dans le cadre du couple qui vit ce bonheur de communion. Hein, nous l'avons vu par la nudité, il le vit, ce bonheur de communion, en communion avec Dieu. Et la tentation du serpent entraîne l'homme à rompre cette communion, et c'est ce qui fait que l'humanité va être séparée de Dieu. Alors, nous voyons que dans la suite du texte, tout d'abord, alors il y a plusieurs choses dans la suite du texte, et souvent, dans la suite de ce texte, ce qui vient est présenté comme une punition, parce que Yahvé Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, maudit sois-tu. Et à la femme, il dit, je multiplierai les peines de tes grossesses, dans la peine tu enfanteras des fils, ta convoitise te poussera vers ton mari, et lui dominera sur toi. À l'homme, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre, je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. Voilà, vous connaissez ce texte qui est terrible. Ce n'est pas une punition. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas une punition, c'est juste Dieu qui raconte à l'homme quelle est la conséquence de la rupture avec Dieu. L'homme n'est pas fait pour vivre cette rupture, et donc Dieu dit à l'homme, voilà, parce que cette relation que j'avais avec toi, tu l'as rompue, eh bien, les éléments fondamentaux de la vie humaine, eh bien, tous ces éléments sont pervertis, sont abîmés par cette coupure. Et donc, les éléments essentiels que sont l'enfantement, le fait de mettre des enfants au monde, le travail, et de façon très, très précise, les relations entre l'homme et la femme dans le couple. Hein, il est parlé de la relation et de l'homme et de la femme dans le couple, et cet aspect est cité deux fois. Une première fois, lorsque avant, dès qu'ils ont désobéi, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Donc la première fois, lorsque leurs yeux s'ouvrent et qu'ils se voient nus, c'est-à-dire qu'ils se voient sans défense l'un envers l'autre, et ils sont obligés d'utiliser des artifices. Hein, les feuilles de figuier, c'est encore une image pour dire qu'ils se protègent avec ce qu'ils trouvent autour d'eux comme possibilité même psychologique. Je ne lui dis pas tout, je ne lui raconte pas tout, je garde des choses pour moi. Voilà quelle est la protection. On se protège de l'autre. Donc, ils se protègent l'un de l'autre parce qu'ils ne sont plus dans cette confiance absolue et ils se cachent de Dieu. Ils se cachent « J'ai eu peur parce que je suis nu. » L'homme a pris conscience de sa pauvreté totale, de sa misère, et il est dans l'incapacité de se reconnaître misérable devant Dieu. Il se cache. Au lieu de dire, d'avoir confiance en Dieu, il lui dit : « Je suis conscient de ma faiblesse, mais je ne te fais plus confiance. » Parce que j'ai perdu cette capacité à faire confiance. Et donc, je me cache pour me protéger de toi, Dieu que je ne vois plus comme un Dieu d'amour, mais comme un Dieu qui juge. C'est ainsi que la conséquence ne se fait pas attendre. Au lieu du don et de la communion qui habitait le premier couple, eh bien, il y a la convoitise et la domination. Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. Alors voilà, à travers, vous voyez que en citant ces récits qui semblent, qui sont parfois maltraités, vous voyez comment est-ce que les rédacteurs, ceux qui ont écrit ces textes, comment est-ce que ils nous racontent finalement ce qui est le grand drame de l'humanité, c'est-à-dire cette rupture totale avec Dieu, ce choix de la mort et ce refus de la vie en Dieu. Alors, voilà, il serait très long de faire tout le récit de ce que les théologiens ont réfléchi, la condition de l'homme à laquelle ils ont réfléchi à partir de ces textes. Il y a tellement, tellement, tellement de choses à dire. Et depuis les débuts de l'Église, avec les premiers grands théologiens, les pères de l'Église, voilà. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que dans cette réflexion, tous ont confirmé la gravité de la rupture entre les hommes et Dieu, à quel point cette rupture était vraiment radicale. Et cette rupture radicale, elle a touché de façon particulière la relation dans le couple humain. Mais cette rupture, dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'elle amène Dieu finalement à être réduit d'une certaine façon à chercher les hommes. Hein. Déjà dans le premier texte de la Genèse que nous avons lu, Yahvé Dieu appela l'homme, où es-tu ? Il ne peut. Il est dans le Dieu qui est le Dieu créateur, qui est le Dieu tout-puissant d'amour. Il cherche l'homme, il recommence à chercher l'homme, appelle l'homme. Lui a-t-il tourné le dos que Dieu le cherche ? Et dans tout l'Ancien Testament, on va voir comment le texte va raconter la quête de Dieu pour trouver le chemin du cœur de l'homme. Hein, et cette quête, elle va se faire sans cesse par le don d'alliances qui sont redonnées à chaque fois, ces alliances qui sont sans cesse rompues par l'homme et toujours réaffirmées par Dieu, hein, comme nous le chantons, tu es le Dieu fidèle éternellement. Dieu ne change pas, il est éternel dans sa fidélité. Et rien ne le détourne de son souci, de son désir de retrouver l'homme. Cette question « Où es-tu ?» finalement, c'est la question qui traverse tout l'Ancien Testament, cette quête de Dieu pour retrouver le chemin du cœur de l'homme. Alors voilà, tout ça pour juste essayer de faire comprendre comment est-ce que le mal est entré dans le monde. Ce mal, il touche chaque homme, bien sûr, il touche toute l'humanité, donc chaque homme, mais aussi, donc ce qui m'intéresse, c'est que ce mal, il touche le couple humain de façon mystérieusement plus douloureuse, parce que le couple était le lieu où se vivait la relation avec Dieu de façon particulière. Le couple créé à l'image de Dieu pour vivre sa relation d'amour à l'image de celle du Dieu d'amour. Et donc, le couple, il y a quelque chose de très mystérieux dans la façon dont le mal a touché la relation entre l'homme et la femme, dont le couple a été blessé, ce que nous affirme le texte de la Genèse, puisqu'on nous parle de l'enfantement et de « ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi ». La relation entre l'homme et la femme est profondément dénaturée, pervertie. Et le couple était le lieu destiné à être image de l'amour de Dieu. Il est abîmé parce qu'il porte en lui quelque chose d'unique, parce qu'il est le lieu de la rencontre entre deux personnes, il est abîmé de façon très particulière. Alors, il y a eu, contrairement à ce que l'on pourrait penser, alors je vais aller très vite en disant que depuis la fin du 19e siècle, nous allons dire, il y a eu tout un développement du romantisme amoureux, hein, je ne parle pas du romantisme littéraire, je parle de cette espèce d'idée romanesque qui fait croire que lorsque un homme et une femme s'aiment, tout est réglé, qui fait croire que l'amour dans le couple est suffisant pour venir à bout de tout. Voilà, c'est quelque chose qui s'est un petit peu répandu dans nos sociétés. Et aujourd'hui, dans nos sociétés, lorsque l'on croit encore au couple, cela arrive bien sûr, souvent on a l'impression que les couples pensent que le jour où ils se marient, le jour où ils s'unissent, tout est fait, tout est gagné, alors qu'en fait c'est là que tout commence. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la relation conjugale est touchée par le mal, elle est fragile parce qu'elle est à la merci de l'égoïsme humain qui sans cesse va chercher à se satisfaire d'abord. Il y a quelque chose chez l'homme qui est de cette nature. Le mouvement de don réciproque qui était à l'origine est remplacé par un mouvement de possession. Et dans l'amour humain, il y a toujours la tentation de son propre bonheur à travers l'autre. Il y a toujours la tentation d'attendre le bonheur de l'autre, d'attendre une satisfaction de l'autre, de voir dans l'autre quelqu'un qui va me rendre heureux. Or, cette tentation, elle vient du péché et c'est ce péché qui fait que finalement, la relation, elle finit souvent par une impasse et ce, jusqu'à ce que, comme le dit la prière, les temps furent accomplis. En effet, dans la quatrième prière eucharistique, il est dit « Tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé ton propre Fils. » Voilà ce que fait Dieu pour l'homme. Il se fait homme, le Fils de Dieu se fait homme pour pouvoir sauver l'homme de ce désespoir. Le Christ se fait homme et lorsqu'il se fait homme, il prend le péché sur lui. Il le terrasse par son amour infini et il nous restaure dans l'amour du Père. Voilà ce que fait le Christ pour nous. Cela veut dire que la spirale de l'égoïsme qui est en chacun d'entre nous est définitivement vaincue par l'élan d'amour infini qui s'exprime par la mort sur la croix et par la résurrection. La spirale de l'égoïsme, qui est aussi quelque chose qui est présent dans le couple, est vaincue par l'amour infini du Christ, mort sur la croix et ressuscité. Ainsi donc, par le sacrement du baptême, chacun d'entre nous est réuni au Père. Hein, nous sommes les enfants de Dieu, tu es devenu le Fils du Père. Voilà, par le sacrement du baptême, nous sommes appelés à la vie nouvelle. Et par le sacrement de mariage, le couple voit son amour totalement transfiguré. Le sacrement de mariage n'est pas une simple bénédiction, il est une transfiguration de l'amour humain. L'amour humain n'est plus soumis au péché. Mais la grâce de l'Esprit est donnée à cet amour pour vivre de l'amour même de Dieu. Et donc, par le sacrement de mariage, le couple humain est dans la possibilité de retrouver cet amour de don et de communion qui est la véritable vocation du couple humain. Alors bien sûr, comme dans le reste de toute fille de baptisée, suivre le Christ demande d'entrer dans un mouvement d'abandon. Pour suivre le Christ n'est pas toujours facile. Pour vivre de la vie même du Christ, il faut entrer dans un mouvement d'abandon. Saint Paul nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Il faut entrer dans un mouvement d'abandon pour que le Christ vienne faire sa demeure en chacun d'entre nous. Et dans le mariage, ainsi, ce n'est plus simplement un amour humain qui unit l'homme et la femme, mais c'est l'amour du Christ qui vient vivifier, qui vient renforcer et qui, cet amour et qui vient lui permettre de triompher de l'égoïsme. Hein, et nous avons un chant très beau, aimer, c'est tout donner, se donner soi-même. Voilà quel est finalement le programme de l'amour humain dans le sacrement de mariage. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Cela ne se fait pas tout seul, bien évidemment, parce que comme dans tous les autres domaines de la vie chrétienne, nous sommes invités jour après jour à accueillir cette grâce, nous sommes invités à la laisser nous transformer. Rien n'est facile, mais nous sommes invités à laisser cette grâce venir en nous pour nous transformer. Et il ne faut jamais oublier que cette grâce, elle permet de venir à bout du découragement, des tentations, du repli ou du refus de l'autre. Voilà donc, le mal est une réalité qui peut abîmer le lien du mariage de façon dramatique, nous l'avons vu. Mais le pire de tout, serait pour nous d'oublier combien la grâce est plus forte que le mal. Vous savez, dans l'évangile de Jean, le Christ nous dit, il affirme qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Eh bien, dans le mariage, c'est ainsi que l'amour humain peut renoncer à la possession et à la domination pour entrer dans un mouvement d'amour et de communion qui est celui qui est la vocation des époux. Voilà ce qu'il faut bien comprendre, et c'est peut-être sur cette note que je finirai, c'est que l'amour humain n'échappe pas à la tentation du péché. Mais ne jamais oublier que, comme le dit le Christ dans l'évangile de Matthieu, l'amour entre l'homme et la femme dans le mariage est aimé de Dieu. Dieu aime l'amour humain dans le mariage. Cet amour, il fait totalement partie du plan divin. Cet amour humain, il n'est pas accessoire, il n'est pas quelque chose qui est moins important. Non, il est extrêmement important parce qu'il touche ce qu'il y a de plus profond dans l'homme. Et en tant que tel, il est béni, il est sauvé, il est transfiguré par le Christ. Voilà donc la grâce du sacrement de mariage. Nous pouvons dire que c'est un cadeau extraordinaire qui est fait aux hommes. Alors, je vous invite aujourd'hui, peut-être lorsque nous nous serons quittés, à prier pour que cette grâce se répande sur ces couples qui ont reçu le sacrement, que cette grâce se répande sur tous les couples pour les aider, qu'elle se répande sur les couples pour guérir les couples qui sont blessés, pour que cette grâce fortifie les couples qui en ont besoin, et que cette grâce aide tous ces couples à grandir en amour et en sainteté, puisque c'est bien la vocation du couple, c'est bien la vocation du couple sous le regard de Dieu. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.